partenariat officiel entre RCJ et Cannes Israël en français. RCJ, média du FSJU, et Cannes en français, la radio publique israélienne, partagent leurs programmes. Pour être encore plus près de l'actu en France et en Israël et en France, restez branchés. Téléchargez l'application mobile gratuite de RCJ pour écouter Cannes Israël en français, avec le concours du FSJU France Israël.
Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse tous les parents francophones en Israël, puisqu'il s'agit en fait de la perception de l'éducation, de la société, de la culture israélienne aux yeux de ses parents. C'est l'objet d'une recherche qui a été effectuée par l'Université hébraïque de Jérusalem. Et nous avons en ligne l'une des personnes qui a participé à cette recherche. Elle était chercheuse à l'époque dans cette équipe. Elle est aujourd'hui orthophoniste développementale. Elle s'appelle Noémie Blumberg. Bonsoir Noémie.
Bonsoir.
Alors Noémie, cette recherche avait vraiment quelle intention vous aviez au départ avec votre équipe concernant cette recherche?
Alors notre équipe, elle s'appelle Nevet, c'est une équipe qui recherche les différences culturelles entre différents groupes culturels d'immigrants en Israël. On parle beaucoup de Aliya, mais en fait c'est une immigration, et dans toute immigration il y a des difficultés qui sont liées à l'immigration et surtout à la parentalité dans l'immigration. Donc il y a eu plusieurs chercheurs qui cherchaient différents groupes de Olim. Donc il y avait des immigrants d'Éthiopie, d'Amérique, de Russie, de France. Moi, je me suis occupée du groupe des Français. Et notre but, c'est un peu de voir comment ça impacte les parents, quels sont les besoins de ces parents et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider dans cette transition, en fait.
Donc, comment impacte l'Aliya sur la parentalité, sur l'attitude des parents, sur même sur leur éducation, on peut dire?
Exactement. Ben, en fait, quand on change de pays, on change tout. On change nos croyances, on change de culture, on change de mode de vie. On sait tous la manière dont on a été éduqué, c'est pas la manière dont on éduque aujourd'hui. Ça, c'est vrai dans le monde entier parce que maintenant, avec les technologies, tout le monde change un peu de manière de vivre. Mais en Israël, on voit vraiment des différences culturelles claires. Par exemple, moi, une des choses que j'ai vues dans ma recherche par rapport aux différences culturelles, c'était le fait qu'en France, on vit plus chacun dans sa maison. On s'invite entre copains quand on est grand, mais les petits-enfants, par exemple, c'est très rare de faire des playdates avec des enfants qui ont 4-5 ans, alors qu'en Israël, les enfants, ils sont toujours les uns chez les autres. Et ça a un impact sur les enfants parce que du coup ils voient ce qui se passe chez leurs copains, mmh. Ils reviennent chez eux, ils disent mais moi la maman de mon copain elle permet ça et ça et toi tu permets pas, et ça vient à l'autre différence culturelle que les parents français sont plus stricts, il y a plus de règles, il y a plus de routines. Pour nous l'obéissance c'est ça qui va créer le bien-être de l'enfant, alors que en Israël on voit plutôt le bien-être de l'enfant aux côtés de, ben, ils appellent pas ça l'obéissance parce que l'obéissance c'est un mot qui est mal vu, ça est à nous, c'est un peu un comment dire,
c'est un mot tabou,
une insulte, ouais exactement, on parle un peu de discipline, mais même la discipline mishmat c'est un mot qu'on emploie surtout à l'école, en vrai on parle surtout de parentalité quoi. Donc voilà, deux modes d'éducation différents, et quand on tombe dans cette différence on est obligé de faire des changements nous-mêmes, on peut pas rester comme les parents qu'on aille, on est obligé de faire des changements. Et ces changements, ils amènent avec eux beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Et le doute parental, ça crée beaucoup de conflits avec nos enfants. Quand ils voient qu'on est en doute, bah, ils essayent encore plus. Et on voit qu'il y a plus de conflits chez les parents immigrants, justement.
Alors, c'est très intéressant, ces différences. Est-ce que vous pouvez nous en citer d'autres? Parce que moi, je me rappelle, hein, je vous donne un tout petit exemple personnel. Je me rappelle lorsque mes enfants étaient petits et au tout début de notre Aliya, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est les repas. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on avait l'habitude en France de manger à heure fixe, assis à table tous ensemble. Et en Israël, eh bien, c'est plutôt l'inverse. Il n'y a pas d'horaire. Chacun mange lorsqu'il rentre de l'école ou lorsqu'il rentre d'une activité quelconque ou de son travail pour les parents. Mais il n'y a pas de repas à table, sauf à Shabbat, sauf le vendredi soir et le samedi midi éventuellement. Donc ça, c'était, pour la petite anecdote, un des exemples de différences frappantes au niveau culturel. Quels autres exemples vous avez remarqués?
C'est un exemple extra, l'exemple que vous avez donné. Ça existe aussi entre la France et l'Amérique. C'est aussi soutenu par les recherches qui cherchent les différences comme ça entre différents pays. Et c'est vrai que ça a un impact énorme, en fait, pas seulement sur le fait que nous, bah, quand on arrive en Israël, on voit que nos enfants, ils ont un atelier extrascolaire, rentrent plus tard, et que du coup, nous aussi, on change un peu, ça nous bouscule un peu parce que du coup, on se demande est-ce qu'on fait bien, et aussi, on se demande comment on peut essayer de créer justement ces règles françaises, ces horaires, ces ne sors pas table, etc., quand on vit dans un monde qui est tellement différent. D'autres exemples que j'aurais, pour les plus grands, c'est beaucoup, beaucoup de sorties. Les enfants dès l'âge de 10, 12, 14 ans avec leur mouvement de jeunesse, ils peuvent sortir 4 fois par semaine, alors qu'en France, on laisse nos enfants partir. Pour ma part, c'était le Bnei Akiva, c'était juste le Shabbat, on sort pas en semaine. Ça, c'est une des différences et qui inquiète beaucoup les parents, justement, parce qu'ils voient l'impact de l'extérieur sur eux. Évidemment, il y a la différence d'éducation où nous, les parents... Les parents français sont considérés comme plus stricts. Il y a beaucoup de parents qui utilisent encore la punition corporelle, la fessée, les claques. Alors, de nos jours, on appelle ça les violences éducatives et il y a plus de conscience qu'il vaut mieux pas. Mais quand on n'a pas appris une autre méthode, bah, la manière stricte, la manière dure, les punitions, c'est un peu ce qui nous vient naturellement. Et ça crée aussi des conflits. Quand on se retrouve en Israël, on peut pas frapper son enfant en public. On sait très bien que ça, on peut tout de suite se faire réprimander par des parents côté qui vont nous dire on appelle la police, on appelle l'assistante sociale, on peut pas laisser passer quelque chose comme ça. Et il faut du coup absolument changer les méthodes. Dans notre cas de l'Alia française, il y a de plus en plus d'ateliers qui sont organisés justement parce qu'ils sont conscients de ce problème pour essayer d'apprendre aux parents comment éduquer d'une autre manière, comment éduquer sans punition. Mais c'est quand même un changement qui prend beaucoup de temps. Et par exemple, pour l'Alia éthiopienne, c'est une anecdote, mais pendant l'Alia d'Éthiopie, c'est surtout ceux qui venaient des petits villages où c'était très patriarcal, c'était le père qui décide de tout, c'est le père qui a l'autorité sur toute la famille, sur la femme, sur les enfants, que ce soit financière ou de comportement, ils se servaient beaucoup, beaucoup de punitions corporelles, encore plus que la France. C'était quelque chose d'assez extrême, et quand ils sont arrivés en Israël, on leur a dit « vous pouvez plus frapper vos enfants ». Et là, ça a fait un gros choc dans les familles parce que les mères ont dû se lever et dire au père quoi ne pas faire. Donc, ça a complètement basculé tous les équilibres de couple. Il y a eu beaucoup de divorces. Et aussi, les papas ont perdu toute leur autorité parce qu'ils savaient pas comment faire autrement. C'était il y a 10, 20 ans. Il y a beaucoup de parents qui sont devenus laxistes du coup parce qu'ils n'avaient pas d'autres méthodes. Et il y a des enfants qui sont partis du coup dans la délinquance, des risques sexuels, des choses vraiment pas bonnes quoi. Et en fait, c'est ça qui nous apprend que quand on travaille avec des populations de Olim, il faut vraiment faire attention d'où ils viennent et comment on peut vraiment les aider. Et c'est un peu ça le but de notre recherche, c'est qu'au final, on soit là pour les parents et que ce soit dans les cadres scolaires, par exemple, vraiment venir main dans la main. Par exemple, une des différences qui est venue, c'est que dans les cadres scolaires, souvent, on vient et on dit aux parents, ah bah, votre enfant, il a un problème, il a un retard, faut l'amener chez l'ergothérapeute, chez le kiné, chez l'orthophonie. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup en Israël. On les envoie vers des professionnels.
Il faut faire
exactement.
Le Ifrun. On va expliquer à nos auditeurs ce qu'est le Ifrun, parce qu'en France, ça n'existe pas. Allez-y, racontez, expliquez aux auditeurs.
Bah, dès qu'un enfant a un moindre retard, en Israël, on regarde beaucoup, beaucoup les normes dès le plus jeune âge, on l'envoie faire une évaluation professionnelle. Je suis personnellement une orthophoniste développementale, donc c'est vraiment mon domaine et tous les ifrunim justement. Mais je sais que par rapport à mes enfants, je vois, on les observe tout le temps, on est tout le temps en train de les surdiagnostiquer, de vérifier qu'ils sont bien, de voir pourquoi ils sont pas bien, de voir comment on peut les corriger, les aider, les amener à telle thérapie et telle tipoule. Et on nous envoie beaucoup, beaucoup s'occuper de nos enfants comme si on faisait pas assez bien. Et en fait, c'est une sorte de switch culturel que je pense qu'on doit faire, de se dire que quand on nous dit d'aller voir quelqu'un, c'est pas parce qu'on n'est pas assez bien, c'est juste parce que en Israël, on est plus couvé, on est plus aidé, on est plus pris en charge. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être ressenti comme quelque chose qui est un peu trop contrôlant et un peu jugeant en fait.
Alors, c'est un petit peu paradoxal parce que d'un côté, on a envie de s'intégrer lorsqu'on arrive en Israël, on a envie de faire partie de la société israélienne, on a envie d'être comme tout le monde, hein, d'être israélien. Et puis d'un autre côté, bien, on a envie aussi d'abord, on est choqué de voir certaines choses qui concernent, comme vous le disiez, l'éducation, la parentalité, le rôle des parents et la discipline, etc. Et donc, du coup, on a envie de sauvegarder, j'ai envie de dire, notre patrimoine culturel, éducatif, en disant, bah non, moi mes enfants ils seront polis, moi mes enfants ils se lèveront pas de table, moi mes enfants ils lèveront la main en classe pour demander la permission de parler en classe, et donc on est un petit peu pris entre ces deux feux, entre l'intégration, être comme tout le monde, se noyer dans la masse, et rester ce qu'on est.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on a beaucoup ce conflit entre nous. Moi, en tant que maman de deux jeunes enfants de 2 et 6 ans aussi, je le ressens. Je vois que comme en Israël, on est beaucoup plus dans le monde, en société, on vit beaucoup plus avec les amis, on a beaucoup plus le regard des autres qui va nous dire, bah ça va, lâche prise. Et je pense que du coup, les parents vont plus tendre à lâcher prise et à un petit peu plier les règles dont ils avaient l'habitude. Donc j'ai vraiment l'impression que oui, en effet, on va essayer de garder cette politesse et cette éducation, etc. Mais je pense que quand nos enfants grandissent, quand on a plus d'enfants, bah là, on va commencer à se dire bon bah au final, c'est pas si mal de s'intégrer. On va prendre le moyen facile et laisser nos enfants sortir, aller chez les copains. On a un peu de silence parce que l'intégration, elle est dure en tant que parent, mais elle est dure en général. La vie en Israël, elle est pas facile. On doit travailler beaucoup et je trouve que les parents, ils ont besoin beaucoup de prendre l'air. Et donc, du coup, parfois, lâcher prise, ça vient juste parce que, à cause des circonstances, en fait. Mm-hmm. Je sais pas si j'explique clairement.
Oui, oui, tout à fait. Alors, mais ce qui est intéressant aussi dans cette recherche, enfin, en tout cas, les résultats que vous avez obtenus, c'est que, bon, mais après, alors, les professionnels qui se retrouvent face à ces nouveaux immigrants, à ces enfants nouveaux immigrants ou à ces parents nouveaux immigrants, ça peut être des professionnels, des psychologues, des éducateurs, des médecins, etc., ou des assistantes sociales, est-ce qu'ils comprennent vraiment comment fonctionne un nouvel immigrant de France, d'Éthiopie, des États-Unis ou d'ailleurs?
Alors, c'est un des gros changements que tout notre groupe de Nevet, le groupe des qui vérifie, enfin qui essaye de comprendre ce qui se passe au niveau interculturel, qu'on essaye de faire, c'est des changements radicaux dans tout ce qui est formation. Donc, quand on va faire des formations dans les écoles, auprès des assistants sociaux, vraiment que chaque personne qui est en contact avec un immigrant aura eu cette formation pour essayer de comprendre que chaque groupe culturel est différent. Et je vois, moi, je suis souvent appelée à faire, à donner des conférences sur qu'est-ce que c'est les parents français, quelles sont les différences auprès de professionnels. Et je vois qu'il y a de plus en plus de professionnels qui s'intéressent. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que quand un assistant social entend d'une maîtresse, ah oui, cet enfant, ses parents le frappent, que la réaction ne soit pas, ah bah mon Dieu, on est face à un cas de violence familiale, mais plutôt essayer de comprendre, essayer de voir, est-ce qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui n'a juste pas encore les clés, qui n'a pas appris les outils, qui ne connaît pas encore, et pas tout de suite avoir peur et venir contre la famille, et pas créer des conflits avec les familles, mais plutôt venir avec eux pour les aider.
Bon alors, moi je ne parlerai pas de violence familiale, mais je parlerai plutôt de réussite scolaire, parce que on voit très régulièrement des enfants qui sont des nouveaux immigrants, qui se retrouvent en échec scolaire pour des tas de raisons. Non pas parce qu'ils n'étaient pas bons en classe auparavant, mais parce que c'est très difficile d'intégrer une nouvelle langue, de l'apprendre, de comprendre, de s'intégrer dans une nouvelle classe, etc. Et l'échec scolaire, est-ce qu'il est compris par les professionnels de l'éducation comme une possibilité de l'échec de l'ALIA ou de l'ALIA tout court?
C'est une excellente question. Moi, je travaille beaucoup avec la petite enfance. Donc, je rencontre pas ces cas d'échec scolaire. J'en rencontre plutôt le début, c'est-à-dire quand l'enfant commence à avoir des petits retards. Mais effectivement, j'entends énormément de cas. Et je pense qu'une des causes, c'est vraiment psychologique. Quand on voit que les parents sont en difficulté, bah, les enfants, ils vont souvent prendre sur eux et ils vont moins travailler, ils vont être moins disponibles pour pouvoir travailler à l'école. Je sais pas, moi j'ai toujours cet exemple de j'étais toujours une excellente élève et il y a une année où mes deux frères ont fait l'ALIA et je suis devenue vraiment mes notes sont tombées de 18 à 3 sur 20. C'était vraiment incroyable. Et quand je pense à ça, je me dis quand on vit une sorte de déprime, de difficulté, bah ça va tout de suite en recourir sur notre manière d'apprendre. Et c'est très très important que les professionnels le sachent et essayent de comprendre que ça provient d'une autre source et qu'on doit être là pour les enfants, là pour les parents, et à nouveau les entourer, être là pour eux.
Mmh. Alors, vous venez de le dire, vous êtes une professionnelle de la petite enfance. J'ai quand même envie, Noémie Blumberg, de vous poser une question qui nous tracasse tous en ce moment. Parce que vous disiez tout à l'heure que la discipline, les fessées, etc., n'étaient pas du tout acceptées en Israël. On dénonce facilement les parents qui lèvent la main sur leurs enfants. Et pourtant, on voit dans les crèches, depuis un certain temps, beaucoup de violence sur les petits-enfants. Et de la violence qui vient de la part d'éducateurs de la petite enfance, d'Israéliens eux-mêmes. Alors, comment vous expliquez cette contradiction?
C'est une excellente question et malheureusement, c'est des cas très tristes. Et ayant travaillé dans des crèches, moi, en parallèle de l'orthophonie pendant une période, je faisais du conseil. Donc, je venais donner conseil dans des crèches. On se retrouve avec beaucoup de cas de violence. Il y a des cas qui sortent à la télé, mais il y a aussi de nombreux cas qui sont tus. Les parents ne le savent même pas. Parfois, c'est des violences où il y a de la violence physique, mais parfois, ça peut être de la violence verbale, émotionnelle.
Bien sûr.
Et moi, c'est toujours, quand je le vois, je suis toujours très triste et je n'ai, enfin, même quand je le dénonce, il n'y a personne qui peut vraiment faire quelque chose. Et,
Quoi, ça vous est arrivé de dénoncer de la violence dans une crèche et personne n'a rien fait?
en fait, on se retrouve dans une situation difficile parce que les métaplotes, les assistantes éducatrices qui travaillent avec les enfants, surtout les 0-3 ans, elles sont payées très très peu, elles sont payées un salaire minimum, elles travaillent dans des conditions de travail infernales. Enfin, essayez d'imaginer de travailler seule avec 5-6 enfants, donc ça veut dire deux maîtresses avec 12 enfants, et être vraiment en travail constant. Les maîtresses sont... Je les justifie pas, hein. Mais enfin, je justifie pas, justifie aucune violence,
Disons que
mais
leurs conditions de
les conséquences.
travail ne sont pas bonnes. Ok, mais ça justifie en rien la violence. Vous êtes d'accord avec moi? Comment?
Non, ça justifie pas effectivement, mais je pense que quand on se retrouve du coup avec des métaplotes qui ont aucune éducation, elles n'ont pas fait de formation, la plupart d'entre elles, c'est des femmes qui viennent d'endroits socio-économiques assez faibles. Donc on se retrouve avec des gens qui n'ont pas eu justement cette éducation ou qui ont vécu dans la pauvreté toute leur vie. Et du coup, chez ces personnes, il y a beaucoup plus de risques de violence.
Et alors ça, la société israélienne, elle reste très, on va dire, ça reste très superficielle la réaction quand même, hein. On hésite, on ferme pas tout de suite la crèche, on fait pas passer d'évaluation ou d'examen psychologique aux gens immédiatement. C'est un peu bizarre cette attitude, non?
Je suis tout à fait d'accord. Et une des raisons, c'est une raison qui est politique, dont on parle depuis les années 70, mais à nouveau, c'est un combat qui est tué parce qu'il y a tellement de combats en Israël. Depuis les années 70, on essaye de faire passer les 0-3 ans sous la tutelle du Misrad Hachinour. Parce qu'au Misrad Hachinour, il y a beaucoup plus d'observations, on va beaucoup plus faire, comment dire, à venir voir les cadres scolaires. S'il y a un problème qui est dénoncé, on va tout de suite s'en occuper. Pour l'instant, les 0-3 ans, sont sous la tutelle du Misrad Hakalkala, du ministère de l'économie. Et du coup, c'est très très mal fait. C'est des gens qui n'ont aucune idée en éducation, qui ne comprennent pas comment ça marche, qui ne comprennent pas le système en fait qui régule nos 0-3 ans. Et on essaye de faire passer les 0-3 ans en Misrad Hachinour depuis maintenant 30 ans, et personne ne nous écoute en fait. Et je pense que le jour où ça arrivera, ces problèmes vont bien bien diminuer parce qu'il y aura beaucoup plus
Voire disparaître.
de piquoirs.
C'est ça. Il y aura d'abord plus de surveillance et puis surtout peut-être une meilleure formation pour les éducateurs de la petite enfance.
Exactement.
Eh bien, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Noémie Blumberg, d'avoir accepté de répondre à nos questions. À bientôt sur les ondes de Cannes.
À bientôt,
Au
au
revoir.
revoir.
Vous venez d'écouter une émission de Cannes Israël dans le cadre du partenariat entre la radio Cannes Israël, la radio publique d'État israélienne et RCJ. Vous pouvez réécouter cette émission en téléchargeant notre application mobile.